Bonjour, je suis François Michaud, je suis le chef du poste de commandement de la région de Paris-Saint-Lazare. Bon, je peux peut-être juste repréciser donc les missions du poste de commandement et puis donc notre domaine de responsabilité. La région de Paris-Saint-Lazare, donc ce qu'on appelle nous la région, c'est l'ensemble des lignes qui sont au départ de la gare de Paris-Saint-Lazare. On va jusqu'à Mantes et puis même après, donc en direction de Rouen ou en direction de Cherbourg. La ligne qui part sur Gisors également, donc ça, tout ça ce sont des lignes qui sont au départ et à l'arrivée donc de Paris-Saint-Lazare. Et sur l'ensemble de ces voies, il y a des trains qui circulent. Et la mission du poste de commandement, c'est d'avoir en permanence un regard sur ce trafic, de savoir en permanence où se trouvent les trains et puis donc de gérer au mieux les circulations sur l'ensemble de ce réseau ferré, donc de la région de Paris-Saint-Lazare.
Quand vous gérez, ça se passe comment au juste?
Alors le principe de base, je dirais, on applique nous le plan de transport. Alors qu'est-ce qu'un plan de transport? Très schématiquement, pour faire circuler les trains, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions préalables. Qui sont évidentes, mais bon, je vais les repréciser, à savoir que pour qu'un train circule, il faut déjà qu'il y ait une rame, ça paraît normal, il faut qu'il y ait une locomotive en tête du train, c'est une deuxième chose, il faut qu'il y ait quelqu'un pour conduire le train, et en dernier ressort, je dirais également, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des sillons de disponibles. Si je devais prendre une comparaison avec la route, s'il y a des axes sur lesquels il y a des bouchons et autres, il faut qu'on puisse trouver l'axe le plus propice pour faire rouler les circulations, où il y a encore des disponibilités donc, pour faire rouler ces trains. Donc nous, notre rôle ici, donc, c'est d'assurer le plan de transport. Et donc c'est de s'assurer en permanence que ces quatre facteurs dont j'ai parlé donc, étaient toujours assurés. Ce qui veut dire qu'on a deux types de missions en particulier, on a deux types de travaux. On a un poste, ce qu'on appelle la régulation, donc lui qui va suivre les sillons. C'est lui qui va avoir la vision, donc globalement, le flux des trains, comment ça se situe. Et il va y avoir un deuxième poste de travail, enfin, donc ils sont plusieurs. Donc c'est ce qu'on appelle la permanence, et là ils vont gérer les moyens. Donc ils vont gérer les rames, ils vont gérer les locomotives, ils vont gérer les mécaniciens, et c'est eux qui également, en opérationnel, en permanence, vont s'assurer que les rames sont au bon endroit, que les machines sont au bon endroit, et puis que les mécaniciens pour conduire ces trains sont également au bon endroit.
Des fois, il suffit d'un grain de sable pour que tout s'enchaîne. Alors, comment un régulateur gère les situations perturbées?
Il est difficile de donner une réponse standard à cette question. Il peut y avoir, par exemple, donc, ce qu'on appelle on a une terminologie très précise, on parle des accidents de personnes, ça reprend les suicides et autres. Bon, enfin, on parle d'accidents de personnes parce qu'on, quand il y a un accident, on a une présomption de suicide, par exemple, on n'en a pas la certitude, donc c'est pour ça qu'on reprend toujours dans les termes génériques. Donc il peut y avoir un accident de personnes, il peut y avoir des problèmes caténaires, donc c'est tout ce qui peut être lié à l'alimentation électrique des trains. Je parle de ça pour dire qu'il y a une graduation donc, dans la situation perturbée. Un signal d'alarme au niveau d'un quai de voyageurs, ça peut nécessiter l'intervention donc, du mécanicien, donc c'est le conducteur de train, pour aller, ce qu'on appelle, réarmer le signal d'alarme. Donc ça, il peut y avoir une conséquence, on va dire, de 5 minutes ou 10 minutes, et puis après, le service peut reprendre normalement. S'il y a un accident de personne, on sait d'entrée qu'on risque d'avoir au moins une heure de perturbation du fait des conséquences de la gestion, parce qu'il faut que les forces publiques interviennent, il faut que les pompiers, il faut même parfois les pompes funèbres, voir un médecin légiste pour analyser le pourquoi de l'accident. Donc le régulateur, lui, il va, en fonction donc, de la gravité, il va tout de suite avoir une idée des conséquences que ça peut avoir. Et il doit aussi juger en fonction de l'endroit où ça se passe, parce que c'est sûr qu'à certaines gares, où il y aura par exemple quatre voies, il y aura la possibilité de faire circuler les trains sur les voies contiguës. Il en fera circuler moins, mais il en fera circuler. Si ça se situe sur, par exemple, la ligne Paris-Mantes, je prends un exemple complètement aléatoire, mais Paris-Mantes par Conflans, si ça se produit par exemple du côté de Limay, dans ce cas-là, on n'aura que deux voies, on n'y aura pas de possibilité. Si les deux voies sont coupées, il faudra penser même à d'autres solutions de substitution, donc voire même par car à certaines heures, sachant que la difficulté, c'est qu'en heure de pointe, on a énormément de voyageurs à transborder, et c'est vrai que c'est pas aisé d'avoir des solutions de substitution en car, par exemple.
33-45 à 36.
36.
Le 789 à 49.
49.
tout cas, on se trouve derrière une table de régulation. Donc, il y a un régulateur qui est en train de suivre le trafic donc sur la partie dont il a la responsabilité. En l'occurrence, là, c'est sur la ligne Paris-Mantes-Parconflans, également Paris-Gisors. Globalement, c'est sur ces lignes-là. Et donc, lui, il a comme mission de suivre l'ensemble des trains donc, qui circulent sur sa zone. Et pour cela, il dispose de différents outils. Il y a des balises dans les voies qui lui permettent, entre autres, par des systèmes d'écran informatique, d'avoir des remontées des passages des trains donc à certains lieux très, très précisément et avec les horaires. Maintenant, tout n'est pas équipé de ce genre de balises, ce qui fait que certaines gares communiquent régulièrement les heures de passage des trains chez elles. Donc là, ce qui vient de se passer, c'était donc l'agent circulation du poste 3 d'Asnières qui communiquait au régulateur les heures de passage des derniers trains étant passés dans sa gare. Donc cette relation donc, se fait par un circuit de téléphonie donc en direct entre le régulateur et la gare.
Où sont gérées les arrivées et départs des trains sur les 27 voies de la gare Saint-Lazare ?
Pour nous, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'un train puisse effectivement partir de Paris-Saint-Lazare, qu'il puisse y arriver. Maintenant, la répartition des voies, ça n'est pas de notre ressort. Pour nous, donc, ce qui est important, c'est que le train il arrive ou il en parte. Maintenant, que ce soit la voie 26, la voie 27, ça, c'est le poste d'aiguillage qui gère la gare de Paris-Saint-Lazare, qui fait, il y a une distribution théorique, et c'est lui qui peut adapter éventuellement et qui fait l'affichage sur les quais. Donc, c'est lui qui gère tout ça pour préciser aux clients, aux voyageurs, où se trouve son train. Peu nous importe que ce soit sur la voie donc 26 ou 27, sachant qu'il y a 27 voies au Paris-Saint-Lazare.
Oui, là. Donc 789,
il va faire voie 3 voies 8. Oui, là, 311, il a été à bonne minute, quoi.
Oui, facile.
Bon, écoute, tant pis pour 789. 822, tu me dis dès que ça peut repartir. Si c'est des phénomènes répétés, on prendra des mesures, quoi, avant d'ouvrir Vernouillet.
Oui.
On avisera, quoi, on baissera tout derrière, quoi.
Je te dirai ça.
Éventuellement, que je puisse retenir le 824 à Aubert pour le mettre derrière 30 à 46, quoi, par exemple.
Oh oui, on
n'est
pas encore là.
Ah ouais, mais tu sais, moi je me méfie, entre les Mureaux et Vernouillet, c'est en général, c'est le phénomène s'amplifie facilement.
C'est
pas bête. Bah non, mais tu sais bien qu'il y a eu des matinées, on est obligé de supprimer tôt. Hein.
Je sais, oui.
C'était là, hein. Et comme ça, ils comprennent, quand on supprime tous les trains, ils se disent, merde, ils prennent des mesures, ces cons-là.
Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un train de banlieue entre Paris et Mantes. Donc là, l'incident se produit au Mureaux où on a des signaux d'alarme donc, qui sont tirés. Malheureusement, des fois, c'est une sorte de sport, à savoir celui qui tirera le plus de signaux d'alarme dans la même rame. Et c'est vrai que ça peut poser de très grosses conséquences en termes de circulation. Mais malheureusement, il y a des trains comme ça pour lesquels on constate qu'il y a des actes de malveillance qui sont faits de façon répétitive. Faut le gérer, mais ça explique aussi donc, les réactions qu'on a entendues.
Maintenant en cabine de conduite pour tout savoir sur les manipulations, les essais et surtout le rôle du mécanicien. Avant que le mécanicien ne prenne sa rame, il a des manipulations à faire, des choses à faire, je suppose.
Quand il met son poste en service, il doit faire deux essais systématiques lorsqu'il utilise le poste pour la première fois, c'est-à-dire un essai de la veille automatique. C'est un système qui permet de vérifier que le conducteur est toujours là, quoi. Et un deuxième essai qui est un essai KVB, c'est-à-dire c'est un système qui permet, là aussi en cas de passivité du conducteur dans certaines circonstances, et le système fait arrêter le train d'urgence, quoi. Ça c'est le test du KVB. Donc on fait ces deux essais pour vérifier que tout fonctionne.
Donc en fait il fait des vérifications pour voir qu'il n'y ait pas de défaillance en ligne, quoi.
Voilà, avant de partir en ligne, on s'assure que les systèmes de sécurité fonctionnent. Donc là quand on prend la rame comme ça, c'est les deux vérifications que l'on fait. Mais la rame, on vérifie tout le fonctionnement de la rame une fois par jour, mais ça c'est fait par les mécaniciens qui assurent les premiers trains. Et ensuite, on ne fait que ces deux opérations systématiquement.
Donc en fait, s'il y a un problème sur la ligne, ce mécanicien est en mesure de pouvoir stopper toutes les circulations.
Oui, tout à fait. Alors, il a plusieurs moyens à sa disposition. Il a soit ce bouton d'alerte lumineuse, ici, Donc le train, donc on fait clignoter les deux feux à cadencement rapide, les deux feux avant du train. Donc là, un conducteur qui aperçoit ça doit s'arrêter. On a au niveau de la radio ici, on a une alerte. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton ici, on envoie une alerte radio dans tout le canton. Donc tous les mécaniciens qui reçoivent cette alerte doivent s'arrêter. Donc ça, c'est les deux moyens les plus rapides que l'on a, hein. C'est tout de suite. Hein. Et ensuite, on a d'autres possibilités dans la cabine. On a des pétards, on a des drapeaux, on a des pétards ici, donc qu'on met sur le rail. Hein. Donc là, quand on écrase ces pétards, bon, ben, on a un boom, quoi, comme un pétard qui explose. Et le mécanicien qui entend ça, il s'arrête également. Ces rames-là, on n'a pas de torche, c'est-à-dire on allume des torches à flamme rouge. Donc sur cette ligne ils ne sont pas équipés, ce matériel n'est pas équipé, donc là c'est pareil, le mécanicien doit s'arrêter. Et on a également cette barre là, la barre de court-circuit, quand on est en bloc automatique, donc c'est le train qui se protège lui-même quand on rentre dans chaque canton. Donc cette barre là, elle simule en fait, elle fait le rôle de l'essieu, donc elle chante les deux fils de rail et le signal se met au rouge derrière. Donc là on protège également en cas d'obstacle sur la voie. Là ici on est voie 1, donc feu vert, voie libre hein, pour nous, avec autorisation de départ qui clignote au-dessus là. Donc à partir de là, bah, on ferme les portes et on est autorisé à partir en ligne.
Et on voit d'ailleurs un voyant qui s'éteint après.
Voilà, alors le voyant rouge allumé, c'est, ça veut dire qu'il y a au moins une porte qui est ouverte. Et lorsqu'elle s'éteint, c'est que toutes les portes sont fermées. Et à ce moment-là, il peut s'en aller. Tant qu'il y a une porte d'ouvert, donc la lumière allumée, l'attraction ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même s'il voulait partir, il ne pourrait pas, ça ne marcherait pas.
Donc c'est pour ça que des fois on a des retards, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à mettre le pied dans la porte, parce qu'en fait il ne peut pas partir.
Voilà, tout à fait. Il ne peut pas partir, là, on ne peut pas alimenter les moteurs de traction.
Quand un train circule, comment est assuré l'espacement entre les trains?
Alors ici, sur cette ligne, on est en bloc automatique lumineux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le train qui se protège lui-même. Donc à chaque fois qu'on franchit un signal qui marque l'entrée du canton, dès qu'on passe de l'autre côté, on chante les deux fils de rail et automatiquement le signal se met au rouge. Donc on se protège nous-mêmes là. Il n'y a aucune intervention humaine.
Donc en fait ça évite qu'un autre train qui circule derrière ne le rattrape quoi.
Voilà, c'est-à-dire que s'il le rattrape, bon bah il va rencontrer feu jaune, feu rouge. Donc il s'arrêtera avant d'arriver dessus quoi.
Alors qu'est-ce qui se passe là actuellement ?
Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de rencontrer des signaux de traction électrique, donc ils ne concernent que les trains de traction électrique. On est en train de changer d'alimentation, c'est-à-dire que le point qui nous alimente en électricité diffère. Comme c'est du courant alternatif, ils ne sont pas en phase. Donc pour éviter d'avoir une destruction du matériel, on est obligé de passer cette section de ligne disjoncteur ouvert, donc sans traction, sur l'air.
Donc là c'est l'air hangar.
L'air hangar, alors avec ce type de matériel, on est en freinage électrique.
C'est-à-dire ?
Bah, en fait, c'est les moteurs qui débitent en génératrice et on n'utilise pas de semelle de frein. On les a, ils sont présents, mais on utilise uniquement sur les remorques, mais sur les motrices, on utilise les moteurs qui débitent en génératrice, donc ils débitent dans la caténaire là, pour ce matériel-là. Et ça permet de limiter l'usure des semelles de frein.
Alors là, on a entendu une sonnerie comme une sonnerie de téléphone. Je suppose que c'est pas le téléphone.
Non, c'est pas le téléphone. Alors ça, c'est la veille automatique là que je parlais au début. Donc le mécanicien à intervalles réguliers, il doit appuyer sur une pédale qu'il a au pied ou alors faire intervenir au niveau de ses appareils de commande qu'il a devant lui. Donc si au bout d'à peu près une minute il n'a pas fait soit une action, soit appuyé sur les pédales, et ben on a une sonnerie qui lui rappelle, qui lui demande s'il est là. Donc là, quand ça sonne comme le téléphone, c'est qu'il est resté trop longtemps appuyé ou qu'il n'a pas fait de geste. Et quand la sonnerie est plus criante, là c'est qu'il a tout est relâché. Donc là ça sonne au bout de 2 secondes et demie. Ça va beaucoup plus vite là.
Donc en fait, bon je ne souhaite pas, mais si le mécanicien a un problème cardiaque, en fait le train s'arrête.
Voilà, tout à fait, le train va s'arrêter. Alors là, la VA n'est pas active lorsqu'on est à l'arrêt, parce qu'autrement, on serait obligé le mécanicien à être constamment en train d'appuyer. Donc si jamais il y avait un signal d'alarme ou un problème avec un voyageur, il ne pourrait pas se déplacer. Donc là, le système n'est actif que lorsque l'on roule. Là, il touchait à rien. Au bout de 2 secondes et demie, ça sonne. Alors que l'autre, c'est à peu près 1 minute.
Et donc là, s'il n'avait pas réagi, le train se serait arrêté.
Ça sonne pendant 2 secondes et demie. Et là, s'il n'a pas réagi, ça s'arrête. Donc on a une disjonction pour couper l'alimentation électrique des moteurs, si jamais ils étaient alimentés. Et on a déclenchement du freinage d'urgence. Et on a de plus, s'il ne réagit pas, enfin s'il a vraiment un malaise, on a un signal d'alarme qui est envoyé au régulateur et qui lui indique quel est l'élément, donc par numéro, quel est l'élément qui vient de déclencher. Donc si jamais c'est une panne du système, parce que ça arrive, le mécanicien il n'est pas en cause, on a un bouton au pupitre ici où on peut annuler l'alarme envoyée au régulateur. Donc après le mécanicien, par radio, il indique au régulateur qu'il a un problème. Mais on n'envoie pas l'alarme. Donc si jamais le régulateur, lui, reçoit une alarme, bah, lui, il faut qu'il sache ce qui se passe. Donc comme il a le numéro de la machine, il sait sur quel train a été mis cette machine pour aujourd'hui, puisqu'il a le permanent engin à côté. Donc il va appeler le train. Donc si en fait c'est simplement un problème du système et que le mécanicien n'a pas appuyé sur le bouton, bah, le mécanicien va dire bah, ok, je suis là, il n'y a pas de problème. Autrement, à ce moment-là, s'il n'y a pas de réponse du mécanicien, bah, il va falloir aller voir ce qui se passe. Donc après, bah, soit on arrête un train croiseur, on le fait arrêter pour aller voir en cabine qu'est-ce qui se passe, ou on envoie quelqu'un d'autre. Donc là après, c'est au choix du régulateur.
D'accord, entendu. Merci.
Il devrait passer dans...
D'accord, entendu.
Donc là, je vois qu'il y a des liaisons avec le conducteur et le régulateur.
Alors là, on peut avoir différentes liaisons. On a soit la liaison régulateur-mécanicien, soit on peut parler poste d'aiguillage lorsqu'ils sont équipés radio avec le mécanicien, ou on peut parler entre mécaniciens. La boîte noire, en fait, elle est ici. La boîte noire, elle est à l'intérieur de... On la voit d'ailleurs ici, hein, puisque le mécanicien doit faire des contrôles dessus. Donc là, sur cette boîte, on enregistre... c'est une bande, hein, qui tourne. On enregistre la vitesse, on enregistre le temps, on enregistre la position des signaux. Donc... ouvert ou fermé. Quand on a un système comme l'AVA ou le KVB qui se met en action, c'est enregistré aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Il y a différents types d'enregistreurs, hein. Il y en a plusieurs.
Alors il arrive des fois qu'on arrête des trains de voyageurs au détriment d'un train qui rentre au dépôt.
Bah oui, là c'est le régulateur. C'est une évolution, donc est-ce qu'elle est en avance, est-ce qu'elle est en retard Bon, après, c'est le PRS Paris, le régulateur qui décide. Donc là, on est pris KVB. Hein. On a 2-0, donc là, on est c'est plus 10, c'est 30. Là. Donc, on a deux choses. On a, par l'avertissement, on doit à 200 mètres du signal, on doit être à 30 maximum. Hein. Ce qu'on appelle la VISA, vitesse sécuritaire d'approche. Et en plus, on est contrôlé par le KVB.
On a vu de loin le signal se remettre au vert, mais quand bien même, le mécanicien ne pouvait pas reprendre sa traction.
Non, il peut pas.
Tant qu'il n'a pas franchi.
Faut qu'il ait complètement. Faut qu'il ait franchi le signal. Donc même s'il est libéré par le KVB, parce que le KVB peut s'enlever, mais on est toujours pris par le règlement, c'est-à-dire par la vitesse sécuritaire d'approche. Donc on ne doit pas franchir le signal à plus de 30 à l'heure.
Donc là on voit un 30, je pense que c'est un panneau indicateur de vitesse.
Ouais, tout à fait. C'est une limitation de vitesse à 30 qu'on va devoir respecter sur les aiguilles d'entrée de Versailles.
D'accord, avec une sonnerie, je pense, pour rappeler.
Voilà, là on a eu un petit bip et le mécanicien est obligé d'appuyer sur un bouton pour arrêter ce bip. Et là pareil, s'il ne rappuie pas, bah, on a un arrêt automatique du train. Donc en appuyant sur le bouton, il confirme qu'il a bien vu le signal. On va avoir un avertissement en entrée un feu jaune en entrée de Versailles. Et on va avoir les indications du KVB qui vont changer, puisque là, les balises vont donner une information beaucoup plus restrictive que l'indication vert. Donc dès qu'on va passer le feu est jaune, dès qu'on va passer sur les balises, là, on va avoir un changement d'état du KVB. Voilà, on est passé à 3-0, là. Donc on va être obligé de réduire notre vitesse jusqu'à 10 km/h avant l'arrêt. Donc là, on fait 30 km/h sur les aiguilles. Là on voit que si on passait à plus, ça risquerait de pas passer. Hein. Donc là on va encore avoir deux contrôles, un à peu près en milieu de quai, il va nous contrôler en vitesse, et un à peu près à une trentaine, 20-30 mètres du butoir, qui là aussi va nous contrôler en vitesse. Et là, si la vitesse est trop élevée, on va avoir déclenchement des opérations d'arrêt du train. Donc là, on doit être à 10. Là.
Donc là, voilà, c'est l'arrivée en gare de Versailles-Rive-Droite, terminus de la ligne.
Sur ce matériel, c'est une particularité. On a isolé le poste de conduite, mais la rame est toujours en service. C'est-à-dire qu'on a toujours les pantographes de levée, les disjoncteurs fermés et l'éclairage allumé.
Il n'y a pas de risque que la rame s'en aille.
Ah non, parce que là, les freins, eux, par contre, ont été isolés. Là. Les freins sont serrés au maximum. On laisse la rame en service pour éviter qu'elle se vide d'air et puis pour laisser le chauffage et l'éclairage.